Il est 8h32, j'aimerais bien pouvoir finir mes phrases de temps en temps, mais c'est incroyable. Donc il est 8h32, c'est l'heure d'ouvrir les journaux. Bonjour Hervé Gattegno.
Bonjour.
Dans les journaux ce matin, le nouveau visage de la résistance russe, celui de Loulia Navalnaya, la veuve de l'opposant mort vendredi en prison.
Vladimir Poutine va apprendre à la connaître, et nous aussi, son visage, triste, pâle et barré d'épaisses lunettes, blondeur hitchcockienne, s'affiche dans la presse du monde entier. On peut lire son portrait en veuve courage dans Le Parisien, dans Le Figaro et dans Libération ce matin. Longtemps, elle a été la compagne, celle dont la présence exposée sur les réseaux sociaux servait d'antithèse au régime de Poutine, construit sur la terreur et le secret. Le Kremlin orchestrait des campagnes pour la salir, la dépeignait en manipulatrice, rappelle Libération. Depuis l'arrestation de Navalny, elle faisait le lien avec le monde extérieur. Elle est rodée aux médias et à la communication, souligne Le Parisien. Sa vidéo de lundi où elle accuse Poutine et annonce qu'elle reprend le flambeau a été vu par 2 700 000 personnes dans le monde en 5 heures.
En France, on commence à en savoir plus sur les économies budgétaires. Que prépare le gouvernement ?
Comment Bercy veut tenir coûte que coûte ses objectifs de réduction du déficit, titre Les Échos. Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'euros d'économies pour 2024. Reste à trouver où serrer la vis. Ouest France résume les principales mesures dans un graphique. Moins 1 milliard sur MaPrimeRénov, moins 800 millions sur l'aide au développement, moins 700 millions sur la masse salariale de l'État. Pas encore d'austérité, mais un début de rigueur, point d'interrogation, se demande l'opinion, qui souligne que pour l'heure, aucune vraie dépense sociale n'est touchée. Amère potion, commente néanmoins Lacroix, et Libération a déjà mal, attention, ça va couper. Comme quoi, ce qui n'est pas assez pour les uns est toujours un peu trop pour les autres.
On comprend surtout que ce plan d'économie forcé ne fait que commencer.
C'est ce qu'écrivent Les Échos, souvent bien informés sur les questions budgétaires. Une source à Bercy parle au journal du début d'un effort qui va se poursuivre. Des restrictions pourraient être imposées dans le remboursement des traitements médicaux pour les patients atteints de longues maladies. Toujours selon Les Échos, le gouvernement n'exclut pas non plus de raboter l'enveloppe allouée au plan d'investissement France 2030. Et Lacroix pose à deux économistes la question ô combien inflammable d'une hausse éventuelle des impôts. L'un est pour, au nom de la rationalité, l'autre est contre, au nom des principes. La solution macroniste pourrait être le « en même temps », mais comment faire pour augmenter les impôts sans renoncer à les baisser ?
Vous pouvez répéter. Ce n'est pas un gisement d'économie, mais un gisement d'hydrogène dont le Figaro révèle la découverte. Ça se passe en Lorraine et ça pourrait être miraculeux pour la France. Vous avez écrit miraculeux, vous n'écrivez pas les mots comme ça à la va-vite.
Miraculeux ou pas, à Volkswiller en Moselle, un forage destiné au départ à puiser du méthane a permis en 2022, par surprise, de tomber sur un immense réservoir naturel d'hydrogène. Le récit du Figaro décrit l'enthousiasme des scientifiques et la complexité des enjeux. L'hydrogène est la plus petite molécule connue, ce qui le rend particulièrement volatile. Il n'est donc que rarement présent à l'état pur sur Terre. Les réservoirs sont très rares. Il en existe au Mali, en Albanie, mais celui de Lorraine paraît inépuisable d'après les experts. Le problème, c'est qu'il faut creuser très profondément pour extraire l'hydrogène. Et les forages, c'est comme les déficits. Plus on les creuse, plus ça revient cher.
Mais quelle forme ce matin dans la métropole métaphore budgétaire et financière. Sur le papier, l'hydrogène semble pourtant être l'énergie idéale pour l'avenir et pour la transition écologique.
Le Figaro précise que la combustion d'un kilogramme d'hydrogène libère 4 fois plus d'énergie que celle d'un kilo d'essence et ne produit que de l'eau, si bien qu'il n'y a pas de pollution. On peut donc l'utiliser comme carburant propre pour faire rouler des voitures, des camions, mais aussi pour produire de l'électricité et éclairer nos villes, écrit le Figaro. Le problème, c'est que pour l'instant, les constructeurs automobiles investissent peu dans les véhicules à hydrogène. C'est la voiture électrique qui domine le marché. Comme tous les ingénieurs, ceux que cite Le Figaro sont optimistes pour l'avenir de la filière, mais comme tous les scientifiques, ils restent raisonnables. À la fin de l'article, on se dit qu'on a peut-être trouvé un gisement prodigieux, mais qu'il ne va peut-être servir à rien.
Bah dis donc, c'est la douche froide là. Hein. Libération raconte la bataille que se livre autour des œuvres de Marcel Pagnol, son petit-fils et la mairie de Marseille.
Là, Il ne s'agit pas d'un gisement de gaz comme en Lorraine, ni d'une source d'eau cachée comme dans Jean de Florette, mais d'un trésor d'archives et de droits d'auteur. L'œuvre de Marcel Pagnol, écrivain, auteur de théâtre et cinéaste, appartient évidemment au patrimoine culturel marseillais, mais juridiquement, c'est son petit-fils Nicolas Pagnol qui en détient les clés. Or, à l'approche du cinquantenaire de la mort de Marcel Pagnol, il est mort le 18 avril 1974, l'héritier interdit à la ville de Marseille d'utiliser les écrits et les productions de son grand-père. Il faut dire que la mairie l'a sèchement écarté l'an dernier de la gestion du château de la Buzine qui abritait un musée Pagnol, décision qui, on le comprend, lui a fendu le cœur.
Tu me fends le cœur, hein ?
Oh, allons, César !
Pas de César, tu me fends le cœur ! Tu me fends le cœur ! Tu me fends le cœur ! Oh ! Et alors ? Alors, ne jouons plus, non ? Qu'est-ce qu'on fait ? À moi, il me fend le cœur, à toi, il te fait rire, à toi, il te fait rire.
Inoubliable Rému dans cette partie de cartes dans Marius, de Marcel Pagnol évidemment, dans la partie qui se joue autour de l'œuvre de Pagnol. Qui va gagner alors ?
L'avantage est plutôt à l'héritier puisqu'il a la main sur le trésor familial et que juridiquement les règles lui donnent raison. D'après Libération, il a entreposé tous les dossiers, affiches, bobines de films, photos et manuscrits et même le costume d'académicien de Pagnol dans un lieu tenu secret à Alo. Et c'est dans cette toute petite ville proche de Marseille que se tiendra le futur musée dédié à l'auteur de La femme du boulanger et du Schpoons, entre autres. Libération énumère les projets en cours, pilotés donc par Nicolas Pagnol, des bandes dessinées aux expositions. On apprend au passage que Nicolas Pagnol a dit non à un projet de western américain tiré de Manon des Sources. Je crois qu'il a bien fait. À la place, on annonce pour l'automne une comédie musicale. À défaut de faire chanter la mairie de Marseille, l'héritier de Pagnol fera peut-être chanter les Marseillais.
Ce qui m'évoque une chanson de Gilbert Bécaud qui dit « Quand t'es petit dans le midi, t'es pas petit comme ailleurs, tu chantes avant de dire maman et avant de parler tu mens ».
Ah, c'est beau.
Pierre Delanoë pour les paroles et évidemment Gilbert Bécaud pour la musique, vous trouvez ça.
Et David Abiker pour l'interprétation.
Exactement, c'est le seul truc que je connaisse par cœur avec un vers du Cid. Vous voyez, ça va pas très loin. Hervé, à demain
à
pour
demain.
La lecture des journaux. Dans un instant, Esprit Libre, Radio Classique, il est 8h30.